France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir une des grandes voix de France Musique, Sylvie Février, qui a participé à la création de cette chaîne jusqu'à son départ en 1994. Pour beaucoup d'entre nous, elle reste la voix de la musique légère, mais elle nous racontera aussi ses débuts dans la compagnie Renaud Barrault ou ses aventures à la télévision. Sylvie Février à ce micro dans quelques instants. En fin d'émission, Serge Elaïc vous conviera sur les pistes enneigées et nous parlerons aussi de chansons de cinéma.
Le bonheur, c'est pas rien, mais ce rien qui nous tient à chasser toutes nos misères. Ce rien-là pour nous. C'est le ciel toujours bleu, c'est la plus belle des chimères. Et lorsque ta main dans ma main tremble très doucement, un peu de chaleur vers mon cœur monte comme un enfant. Le bonheur, c'est pas rien, mais ce rien qui nous tient. Si peu de choses que toujours sa réalité fait songer au parfum des roses ainsi qu'à leur fragilité. Le bonheur, c'est pas rien, mais ce rien qui nous tient à chasser toutes nos misères. Ce rien-là pour nous deux, le ciel toujours bleu, c'est la plus belle des chimères. Et lorsque ta main dans ma main tremble très doucement, un peu de chaleur vers mon cœur monte comme un enfant. Le bonheur, c'est un rien, pour autant de ce rien, j'ai fait mon amour et le
l'orchestre Valberg, Pierre Mingan et bien sûr, vous l'avez reconnu, Daniel Darieux. Daniel Darieux en 1935 dans le film Mademoiselle Mozart. Elle avait 18 ans. Elle en aura 100 bientôt, le 1er mai. Daniel Darieux dans Mademoiselle Mozart, un de ses très nombreux films musicaux français. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment de La La Land et c'est vrai que le réalisateur de ce beau film a rendu hommage à maintes reprises à Jacques Demy et Michel Legrand au cinéma musical français. Mais le cinéma musical français, ça ne sont pas seulement les années 60, c'est aussi les années 30, des quantités de films avec des chansons. Je vous en reparlerai tout à l'heure avec Fernandel, Jean Gabin, Suzy Delaire, Darieux et tant d'autres qui ont fait chanter le cinéma. Ce sera après l'entretien avec mon invité.
Thank you.
Peu de piano pour faire plaisir à Philippe Cassard. Je suis sûr qu'il adore Errol Garner, comme nous tous d'ailleurs, surtout quand on écoute ce chef-d'œuvre du jeune Errol Garner en 1946. Ça s'intitule Front Tonality.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et vous le savez, dans cette émission, j'aime faire de l'histoire de la chanson, de l'histoire de l'opérette, mais aussi de l'histoire de la radio avec les grandes personnalités qui ont fait vivre cette maison et même la radio avant qu'elle ne s'installe dans cette maison. C'est le cas de mon invité qui a incarné pour beaucoup d'entre nous la musique légère sur France Musique, mais sa vie est beaucoup plus riche et faite d'aventures, de hasards. Elle nous l'expliquera que cela. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sylvie Février.
Musique légère, Sylvie Février. Allons entendre de la musique française et qui plus est de la musique à la parisienne pour cette petite demi-heure de musique légère aujourd'hui. Donc avec Valberg d'abord, Marionnette. C'est un enregistrement du service de musique légère de Radio France et l'orchestre est dirigé par Paul Bonneau.
Bonjour Sylvie Février.
Bonjour Benoît Dutertre.
C'est une joie pour moi de vous recevoir ici aujourd'hui. Là, vous vous entendez juste avant dans une de vos émissions de musique légère de 1984.
Mon Dieu.
Mon Dieu. Et vous savez que pour beaucoup d'entre nous, de ma génération, c'est grâce à vous qu'on a découvert tout ce répertoire d'orchestres divertissants. Parce que vous avez, pendant quand même quelques années, assuré cette programmation sur la chaîne France Musique.
Ah oui, ça a duré quand même longtemps.
Vous aimiez ce répertoire de fantaisie, de divertissement?
Ce répertoire de fantaisie se renouvelait très bien d'ailleurs, puisque au fur et à mesure, on enregistrait. Il y avait un orchestre spécial d'ailleurs.
Bien sûr.
Qui enregistrait la musique légère presque toutes les semaines, donc on pouvait renouveler.
Et là, c'était par exemple une pièce qu'on a entendue au début de Roger Roger qui s'appelle Gavotina, qui était votre générique. Je ne sais pas si c'est vous-même qui choisissiez toutes les œuvres que vous diffusiez ou c'était ça.
Oui, vous savez, je travaillais avec une assistante. On choisissait à deux.
Voilà.
Alors, les assistantes, j'en ai connu beaucoup parce qu'elles étaient toutes jeunes. Elles commençaient un peu souvent avec moi parce que ce n'était pas très, très difficile. La musique légère, et puis elle continuait après à monter en grade.
Dans les différents services de la maison. Il faut dire que vous-même, vous les avez connus, tous les services de la maison, parce que vous n'avez pas du tout fait que de la musique légère, vous avez fait bien d'autres choses, on va y revenir sur cette chaîne.
J'ai fait un peu de musique légère, oui, mais ce n'était pas du tout le principal. Je le faisais à côté.
Voilà, ce n'était pas votre passion d'origine. Vous avez fait du théâtre, vous aimiez la musique classique, et c'est comme ça que vous êtes arrivé ici, et que vous avez fini un peu par hasard, par faire ces programmes légers. Mais une question avant de revenir sur ce parcours, Sylvie Février, ce joli nom de Février, c'est votre nom de naissance?
Non.
J'ai cru que c'était un nom qui datait pour vous des Cours Simon.
Oui. Après la Sorbonne, disons, je suis allée aux Cours Simon. Comme ça, j'étais pas sûre de faire du théâtre, mais enfin, je voulais apprendre à parler mieux.
À parler mieux, voilà. Vous appeliez Sylvie Duval.
Mon nom de naissance, c'était Duval, oui.
Voilà.
Bon. Et Pierre Simon m'a dit, oh, des Duval, il y en a trop. C'est vrai, à l'époque, il y avait deux comédiens. Il y avait Jacques-Henri Duval, Jacques Duval. Il y avait une chanteuse de l'opéra, Denise Duval.
Bien sûr.
Alors, il m'a dit, écoute, ça va, choisis un nom. Bon. Alors, il a commencé à me dire, oh, on est le 29 février, ça te portera bonheur.
Voilà.
Vas-y pour février.
Et c'est comme ça que vous êtes devenue Sylvie Février.
Oui.
Ce qui était un nom d'ailleurs déjà pris par quelques musiciens quand même.
Je ne savais pas. Vous avez franchement, quand René Simon m'a donné ce nom, je ne
Vous ne connaissiez pas Jacques Février, par exemple, ou Henri Février.
Henri Février, le compositeur, et Jacques Février qui était pianiste.
Et vous êtes restée, en tout cas pour nous, Sylvie Février, une des voix historiques de France Musique. Je propose qu'on revienne maintenant un petit peu ensemble sur tout ce parcours. Sylvie Février, j'avais une double raison de commencer par cette petite pièce de Kreisler, parce que d'une part, elle est jouée par Isaac Stern, que je crois vous avez eu la joie d'interviewer pour France Musique, et puis parce que vous avez été vous-même une toute jeune apprentie violoniste.
Oui, oh. Bon, c'était une passion de ma mère, qui n'a jamais été violoniste professionnelle, mais elle avait une passion pour le violon, et je veux dire que c'était beaucoup trop tôt, elle m'a mis un violon dans les mains, j'avais 4 ans.
Oui.
Je pense qu'avant 7-8 ans, si vous voulez, ça, c'est un exercice. Tous les jours, en rentrant de la maternelle, mais je ne peux pas dire que j'y prenais tellement goût. Hein.
Après, vous l'avez étudié plus sérieusement?
Ah bah oui. Enfin, sérieusement, pas pour en faire un métier. Je ne voulais pas en faire un métier. Mais bon, j'aimais la musique. J'ai fait du violon jusqu'à l'âge de 18-20 ans. Quand j'étais obligée de faire autre chose, j'avais plus le temps. Après.
Vous avez été d'ailleurs notamment élève au conservatoire de Saint-Mandé, qui était dirigé, je crois, par un grand musicien à l'époque.
Par Pierre Fournier.
Le violoncelliste, oui.
Oui, et il était très sévère.
Ah bon?
Oh là là, je me souviens des lectures à vue. Ben, on avait des triples croches avec 3 ou 4 barres au-dessus de la portée et autant en dessous. Et il fallait lire 200 notes à la minute.
Ah oui, carrément.
Il se baladait derrière nous, en plus avec un métronome. Il fallait être en mesure et lire 200 notes à la minute. Eh bien, c'était pas si facile. Mais bon, ça m'a été utile, tout est utile.
D'ailleurs, des années plus tard, vous avez fait, quand vous travailliez à la radio, une émission, je crois, qui s'appelait « Le violon et ses interprètes ».
Voilà.
Donc c'était un peu la suite de votre apprentissage de jeune fille, née à Paris, passée par plusieurs villes de province, revenue à Paris. Et puis finalement, vous vous êtes tournée plutôt vers des études littéraires d'abord. Hein.
Oui, j'ai fait une licence de lettres. Oui. Classique, enfin, français, latin, grec, philologie à l'époque.
Oui.
Mais c'est la philologie qui m'a beaucoup plus intéressée, c'était la parole.
La parole, toujours, justement.
Toujours.
La voix, c'est pour ça que vous avez eu toute votre place à la radio avec cette belle voix que nous aimons.
Oh non, je parle plus maintenant, hélas.
Mais qu'est-ce qui vous a fait passer alors finalement de la philologie au théâtre, puisque ça a été votre première passion vraie
alors, là,
et professionnelle?
Alors là, une surprise. J'étais donc allé au cours Simon pour apprendre à parler mieux, mais enfin, je travaillais des scènes, forcément. Je faisais un peu de théâtre. Et alors là, c'était un beau jour de juin. Je descendais les Champs-Élysées avec 2 camarades du cours Simon, d'ailleurs. Et il y en a un qui nous a dit, oh ben, puisqu'on est là, on va s'arrêter au Carré Marigny. Jean-Louis Moreau monte une compagnie, il va peut-être m'engager, il m'en a parlé. Et puis bon, j'avoue que je n'avais pas envie d'entrer, j'ai dit on va l'attendre dehors.
C'était en 1947, je crois.
Oui. Il a insisté, on est entré dans le hall, et la première personne sur laquelle on est tombé, c'était Jean-Louis Moreau. Avec la veste un peu nonchalante, disons, une cravate de travers, et il n'était pas grand comme un homme. Quand j'ai vu, j'ai dit, c'est ça Jean-Louis Moreau. Je l'avais vu dans Les Enfants du Paradis.
Bien sûr, oui.
Où il était fort joliment photographié. J'avais du mal à comprendre. Bon, enfin, on est tombé sur lui, je ne savais plus où me fourrer. Les deux garçons discutaient avec lui, et puis ils m'ont présenté. Jean-Louis Moreau m'a regardé des pieds à la tête, et puis il ne disait rien, je ne savais plus où me fourrer encore. Tout d'un coup, il a baissé la tête en tortillant la mèche qu'il avait sur le front. J'ai su après que c'était sa façon de réfléchir. Puis quand il a relevé la tête, il m'a dit « Bon, eh ben, je ne sais pas encore ce que je ferai de toi, mais je t'engage.
» C'est joli.
Ça me tombait comme ça.
Et vous êtes entré dans la compagnie Barreau.
Ah bah donc, oui, il m'a engagé.
En 1947. On va faire un tout petit saut dans le temps avant d'y revenir, justement, avec la compagnie Barreau, 10 ans plus tard, dans la fameuse production de La Vie parisienne avec Pierre Bertin, et qui fait son entrée et qui veut s'enfourrer jusque-là.
Ah, c'est très bien ici, c'est très bien. Mais dites-moi, vous m'avez dit que j'étais au Grand Hôtel. Il est tout petit, cet hôtel.
Bah, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, vous êtes dans un des petits hôtels du Grand Hôtel.
Ah, bon, mais dites-moi, il y a un de mes amis, le baron de Frascata.
Le baron de Frascata?
Qui a connu à Paris une jeune dame qui jouait la comédie, une certaine Metella.
Oh.
Et il m'a donné une lettre de recommandation pour elle. Vous lui ferez parvenir cette lettre.
Tout de suite?
Oui, le plus vite possible.
Car... dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être, or 3 mois c'est bien peu je crois, surtout quand on veut tout connaître, aussi je veux dans ces 3 mois. Je veux m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, porter la lettre à Metella, je veux m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, porter la lettre à Metella, je veux m'en fourrer jusque-là.
La Vie parisienne, la production de Jean-Louis Barreau, chantée ici par Pierre Bertin, Sylvie Février.
Je pense que Jean-Louis Barreau, ce qui l'amusait, c'est le côté irrévérencieux de ça, parce qu'il aimait beaucoup cette opérette-là. Et il avait Suzy Delair comme vedette, parce qu'il fallait quand même une vraie chanteuse, mais il avait voulu monter ça avec toute sa troupe pour en faire quelque chose de plus parlé, de plus joué.
Théâtral, finalement.
Plus théâtral, vraiment. Oui, oui. Et c'était très réussi. Hein.
Alors, vous, à ce moment-là, en 58, vous n'étiez plus dans la troupe de Jean-Louis Barreau, mais vous y avez passé 2 ans hein, dans la troupe
deux
de Barreau.
2 ans et demi, à peu près, oui.
Vous avez fait quoi avec lui?
Ah ben, il m'a engagé pour jouer la reine comédienne de Hamlet. Après quoi, il y a eu le procès de Kafka, et Madeleine Renaud jouait les fausses confidences, et après, il avait remonté les Enfants du Paradis sur scène. Alors j'étais un des personnages des Enfants du Paradis, et puis après, il y a eu Occupe-toi de Mélie. Alors là, je me suis beaucoup amusée parce que je jouais une des courtisanes Occupe-toi d'Amélie, et je dois dire que Madeleine Renaud était d'une drôlerie là-dedans.
Mais alors, vous étiez partie pour une carrière au théâtre, Sylvie Février.
Bah, du coup, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès, mais c'était parti comme ça.
Et vous êtes passée, alors, au bout de 2 ans et demi, donc de la compagnie de Jean-Louis Barreau à la compagnie Grenier-Husneau, qui est aussi une des grandes compagnies de l'époque. Hein.
Oui, c'est-à-dire que Jean-Louis Barreau m'a dit à ce moment-là, « Bon, je ne peux pas te donner de rôle très important dans une compagnie comme la sienne, où il y avait des vedettes, il avait 2 professeurs au conservatoire, Leroy et André Bruneau, enfin, des gens avec qui je ne pouvais pas rivaliser. Bon, du coup, on en a parlé beaucoup, et il m'a dit, écoute, il faut que tu te brises un peu, Ici, c'est très, pas solennel, mais c'est très du grand, grand, grand théâtre. Il faut absolument que tu fasses de la fantaisie, que tu t'obliges à devenir, bon.
Vous étiez plus porté vers le boulevard et le vaudeville, alors, finalement.
Alors là, c'est lui qui m'a envoyé, c'est René Husselot, et c'est, comment dire, Serrault, Jean-Marie Serrault, qui faisait du nouveau théâtre, tout à fait. Et bon, bah là, ça m'a en effet brisé, parce que c'est René Husselot, j'ai joué Orion le tueur, avec Yves Robert, et avec les frères Jacques.
Avec les frères Jacques.
Et les frères Jacques, qui étaient aussi enlevés de rideau, enfin, ils commençaient à travailler seuls, mais ils étaient encore là dans ce spectacle.
Comme chanteurs, donc, hein.
Ah bah oui, ils étaient tous les quatre. Oui. Ils me faisaient des farces, c'était affreux. Et on est resté amis jusqu'à la fin. Jusque-là, le dernier...
Paul Touraine, mort, récemment,
Touraine. Mais Touraine était au Canada depuis une dizaine d'années, mais les autres, je les ai suivis jusqu'à leur mort. On est resté amis.
Donc vous avez eu cette vie de comédienne dans les théâtres de boulevard pendant plusieurs années.
Hein. Oui.
Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, on est arrivé à l'époque de la télévision. Encore un indicatif qui éveille beaucoup de souvenirs pour nous autres qui avons grandi devant les chaînes de la défunte ORTF, où il faut dire, Sylvie Février, là encore c'est un mystère, parce que vous êtes passé donc du théâtre à la télévision et vous avez commencé votre carrière de télévision à Strasbourg.
Oui.
Alors comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez quitté le théâtre d'abord?
Je ne sais pas trop. J'ai pris les choses un peu comme elles venaient.
Voilà. Bon. Vous occupiez des relations de la radio-télévision française pour un déplacement à Strasbourg.
Oui, c'est ça. On m'a envoyé à Strasbourg simplement pour tenir un stand pendant la foire. J'y suis resté 15 jours, je suis rentré à Paris, et 15 jours après, j'avais un coup de fil du président de Strasbourg. Est-ce que vous voudriez venir pour une période plus longue? J'étais libre, j'aimais bien bouger. J'ai dit pourquoi pas. Et donc, j'ai passé une saison à Strasbourg. Alors là, c'est pas difficile, on faisait tout. Voilà. On faisait tour deux.
C'était la télévision des débuts, hein, le côté héroïque et archaïque.
Ah,
et
tout à fait. Tout à fait. Moi, j'étais avec mon micro, je donnais les nouvelles un peu. Et puis, j'étais avec un camarade. On faisait des enquêtes un petit peu, des enregistrements en Alsace. Enfin, c'était sympa, c'était amusant.
Voilà, et ça a dû plutôt bien marcher, puisque vous avez ensuite été l'une des animatrices d'une émission alors nationale qui s'appelait Dimanche en France, qui était une émission qui se passait à la fois en province et à Paris, et vous faisiez toujours la partie parisienne de l'émission.
Oui, c'était tous les dimanches midi, je me souviens. Et Dimanche en France, c'était sélectionné, c'est pas moi qui faisais la sélection, mais on me demandait d'interviewer des jeunes comédiens ou des jeunes chanteurs qui débutaient. Alors c'est comme ça que j'ai vu Brassens d'une timidité encore épouvantable. J'arrivais pas à lui tirer très haut, c'était difficile. Et puis il y a eu Guy Béard qui débutait aussi. Et puis Jean Ventura, dont c'était le premier film. Et qui était bourru, mais bourru. Je crois qu'il était très timide aussi au début. Et que c'est ça qui lui donnait son côté un peu hargneux. Voilà. Enfin, c'était pas toujours facile à faire. Hein.
Ah, c'est drôle, hein, parce que première vie donc au théâtre, deuxième vie à la télévision. Vous étiez d'ailleurs, j'ai envie de dire, une vedette, parce que j'ai là un journal qui s'appelle Téléradio 58. Vous avez fait carrément la couverture, hein, Sylvie Février.
Non, c'était comme ça, je pense. Ah bon parce qu'ils avaient besoin peut-être d'un visage de femme, et puis voilà.
Hein. Oh, vous étiez une jolie femme, d'ailleurs.
Hein. Oh, oh, oh.
Ah, ah. Et ensuite, comment est-ce que vous avez traversé la Seine depuis les studios de la rue Cognac-Gé jusqu'à la... D'ailleurs, c'était pas encore la maison de la radio. Mais comment est-ce que vous êtes passé de la télévision à la radio?
Ah, bah, tout à fait par hasard aussi. Tout ce qui m'est arrivé, m'est arrivé comme
par
ça.
Par hasard.
Eh oui. J'avais une camarade qui tenait un stand à un salon de la radio. Un jeune après-midi, elle me dit « Oh, est-ce que tu pourrais me remplacer ?» Ça ne m'amusait pas beaucoup, mais enfin, j'ai dit « Bon, on y va. » Et sur ce stand, j'ai croisé un ancien camarade du cours Simon, qui était Jean-Marie Oberlin.
Qui était un des grands responsables de la radio.
Ah ben, il n'était pas encore. Il travaillait au club d'essai. Et puis bon, un ancien copain, vraiment un ancien copain, très gentil. On a bavardé, puis il me dit « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Ben, je lui dis « Tu vois, je finissais de la télé, c'est tout, quoi. » Bon, parce que moi, je commence une chaîne. J'aurais besoin de quelqu'un, d'une comédienne plutôt, parce que quelqu'un qui puisse me dire à la fois des poèmes et puis des musiques, etc. Est-ce que ça t'intéresse ? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça liait les deux.
Mais c'était quoi cette chaîne alors ?
Eh bien, cette chaîne, c'était le début de France Musique.
C'était le début de France Musique. Et vous y étiez ?
Eh bien, j'y étais. C'était Jean Tardieu, un poète.
Bien sûr.
Qui était le patron. Et Jean-Marie Oberlin était chef de programme. Et c'est comme ça que j'ai commencé par faire des soirées avec des émissions, avec des poèmes ou des textes, ou alors des choses amusantes que je piquais chez Paul Fort, chez Valérie, vous savez, des petites phrases.
Ah, vous ameniez des petits moments poétiques
voilà,
comme ça, entre
comme
les concerts.
Et seulement le problème, c'était d'arriver à les lier avec le sujet des chansons.
Bah oui.
C'était pas toujours commode. Et ça me donnait un travail fou, mais j'adorais.
Alors, Sylvie Février, je ne vais pas citer toutes les émissions que vous avez faites. Alors, j'ai retrouvé des titres qui parlent aux musiciens. Par exemple, les grands orchestres, musiciens contemporains, le violon, je l'ai cité tout à l'heure. Mais il faut dire que vous avez aussi, au fil du temps, réalisé beaucoup d'entretiens pour la radio, des entretiens avec des grands interprètes ou des compositeurs, on peut en citer quelques-uns. Isaac Stern, qu'on a entendu tout à l'heure, vous l'avez interviewé pour la chaîne.
Oui, Pierre Wozinski, qui était le directeur de la musique à l'époque, tout d'un coup était en panne, il n'avait plus d'attaché de presse. Et ça m'est tombé dessus, il m'a dit « Écoutez, j'ai besoin de quelqu'un pour remplacer en attendant que j'en trouve une autre. Oui. Ben, tant pis pour vous, vous êtes polyvalente. » Merci. Mais vous savez, c'est pas un métier. Hein. C'était affreux. Et c'est cette année-là où Isaac Stern, heureusement, est venu passer 2 mois à Paris pour faire des enregistrements. Et on m'a demandé de le cornaquer, vraiment. Il fallait que j'aille à tous ses concerts. Il fallait qu'enfin je m'occupe, de m'assurer qu'il était là. Enfin, c'était un homme adorable. Cet homme, corpulent, ouais. Avec ses bonnes grosses mains, je me disais, mais comment peut-il jouer du violon aussi bien ?
Oui, c'est vrai.
En fait, formidable.
Alors, on va écouter tout de suite une autre interview que vous avez faite, et puis on va entendre justement Stern avec Rostropovitch et Jean-Pierre Rampal, parce qu'ils jouaient souvent ensemble.
Oui, et parce que je les ai tous interviewés aussi.
Les trois. Hein. Alors, on écoute d'abord un petit bout de votre interview de Jean-Pierre Rampal, puis on retrouve le trio de ces trois merveilleux musiciens.
Jean-Pierre Rampal, vous donnez l'impression d'avoir une carrière, je ne peux pas dire facile, mais une carrière qui se déroule sans heurts, sans difficultés, et vous donnez l'impression vous-même aussi d'avoir une personnalité, disons, très harmonieuse. Est-ce que je me trompe beaucoup ?
Je ne pense pas que vous vous trompiez beaucoup, vous ne vous trompez même pas du tout, en ce sens que ma carrière est quand même facile, c'est vrai. Je ne donne pas l'impression que j'ai eu une carrière facile, ma carrière a été facile. J'ai eu de la chance, peut-être je suis tombé au bon moment. Je ne veux pas dire quand même que je devais avoir tout de même un peu de talent pour cela, quand même, parce que sinon, ça aurait été difficile. Mais je n'ai jamais compliqué ma carrière, parce qu'on peut compliquer sa carrière. Je connais des tas de mes collègues qui se compliquent la vie par plaisir. Et je ne me suis jamais compliqué.
Thank you.
ravissante petite polonaise de Mozart, jouée par Rampal, Stern et Rostropovitch, que vous avez donc aussi interviewé.
J'ai bien connu Rostropovitch, oui.
Oui.
Parce qu'il était tout le temps à la maison de la radio.
C'était la maison des musiciens, hein, vraiment, oui, tout le monde était là.
Tout le monde, mais je crois que j'ai la chance, si vous voulez, de connaître cette époque.
Oui.
Parce qu'on avait de grands musiciens. Rostropovitch était aussi d'une simplicité remarquable. On pouvait discuter, bavarder avec lui. Et je me rends compte maintenant que j'ai eu de la chance.
Et la chaîne alors a pris vite de l'importance, hein, et s'est beaucoup développée par rapport à vos débuts en 59.
Ah oui, ça, au début, c'était tout petit. Hein. Mais après, bon, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et puis, tout au début de France Musique, on a eu la chance d'avoir un garçon comme Jacques Vaudou, qui s'occupait de tout. Il avait un don d'invention, de trouvailles. C'est lui qui a inventé les premiers petits festivals d'Aix-en-Provence. Vraiment, ça se faisait dans les rues ou sur les places, trois fois rien. Mais c'était déjà une façon de s'étendre, de se faire connaître ailleurs en France.
Voilà, la chaîne circulait comme ça un peu partout. On va revenir d'ailleurs au festival, mais je voulais aussi qu'on dise un mot d'un service très important qui a disparu depuis, qui était le service lyrique, dirigé je crois par Jules Gressier, qui fournissait beaucoup d'émissions.
Oui, moi j'aimais parce que, bon, j'aime bien l'opérette.
Voilà.
Ça paraît ringard.
Ah mais pas du tout,
mais j'aime bien l'opérette, mais si, parce que... D'ailleurs, en général, enfin, l'opérette classique était bien écrite par des vrais compositeurs. Et puis, ça a beaucoup d'irrévérence.
Exactement, d'insolence même. C'est
d'insolence. Et moi, ça m'amusait. Bien chanté, parce qu'à l'époque, on avait de très bons chanteurs d'opérette. Ben, ça m'amusait beaucoup.
Vous avez connu un peu Gressier, les chanteurs de la troupe lyrique à la radio?
Ah oui. Il y avait Claudine Collard, par exemple.
Merveilleuse artiste qui nous a quittés il y a peu de temps.
Ah bon ?
Oui.
Oh, elle était charmante. Et puis, alors surtout un pilier, Michel Danse.
Bien sûr.
Qui était un chanteur de l'opéra, d'ailleurs, et qui avait vraiment une très belle voix.
Joseph Perron.
Joseph Perron, bien sûr.
Lina Dachary.
Voilà.
Et Jules Gressier, il était comment ?
Oh, c'était un... Autant je me souviens d'un petit bonhomme mince, un peu sec, mais extrêmement précis. Il était très, très exigeant, heureusement.
Ce qui fait qu'on a tous ces jolis enregistrements. Alors justement, on va peut-être écouter tout de suite un de ces enregistrements, Michel Danse dans La fille de Madame Angot, sous la direction de Jules Gressier. Ça vous conviendrait ?
Oh, tout à fait. Et si vous pouviez, l'air de Clairette.
Justement.
Parce que je trouve ça très amusant, de toute façon.
Certainement j'aimais Clairette, mais dois-je mourir de chagrin quand peut-être une autre conquête peut me venger de son hymen. Ce billet parlant à mon âme d'un style qui n'est pas commun. Pour trahir une noble dame, exhale le plus doux parfum. Certainement j'aimais Clairette, et certes je n'ai pas changé. Certainement je la regrette, mais une autre m'a protégé. Cela prouve qu'elle est puissante, or sans beauté, pas de pouvoir. Conclusion, elle est charmante, à que je brûle de la voir. Certainement, j'aimais Clairette, mais elle se marie, hélas. Faut-il qu'un scrupule m'arrête quand elle-même n'en a pas? Et puis, l'inconnu le peut-être, ont pour nous un charme divin. Et l'inconnu pour le connaître, au rendez-vous j'irai demain. Au rendez-vous j'irai demain. Mais sans renoncer à Clairette, à sa conquête qui me plaît, Et nous verrons lorsque Clairette sera Madame Pomponnet. Oui, nous verrons lorsque Clairette sera Madame Pomponnet.
La fille de Madame Angot par Michel Danse, la merveilleuse voix de Michel Danse, choisie par mon invité Sylvie Février.
Il avait une belle voix, vraiment. Maintenant, là, l'enregistrement est peut-être un peu ancien.
Hein. Un peu ancien, bah oui, c'est le temps encore du 78 tours. Mais ce qui est merveilleux avec vous, Sylvie Février, c'est qu'on fait de l'histoire de la musique, mais aussi de l'histoire de la radio. Et c'est important de raconter l'évolution de ce genre, de cette maison, de cette chaîne. Et alors vous avez connu les débuts de la maison de la radio, parce que quand vous avez commencé, ça n'était pas encore ici.
Les tout débuts, c'était pas loin d'ici d'ailleurs, près Raymond Poincaré. C'était donc ce qu'on appelait Pistor, mais c'était une très jolie propriété.
Ah bon ?
Dans un jardin. On avait deux studios en tout. Et puis, ça se passait en famille. On travaillait avec un technicien, preneur de son, qui faisait tout. On faisait des soirées entières comme ça,
d'accord,
à deux.
Vous avez beaucoup aimé aussi Sylvie Février dans toutes ces années de France Musique, où vous le disiez, vous avez un peu tout fait, justement les festivals, et notamment vous avez des souvenirs marquants de Salzbourg et de Bayreuth.
J'étais à Paris pour Bayreuth, j'étais à Salzbourg.
Pour Salzbourg.
Pour Salzbourg.
Et vous étiez à Aix-en-Provence aussi pour Aix-en-Provence.
Ah oui, ça oui, en France on allait partout.
Alors par exemple cet orchestre folklorique roumain à Aix-en-Provence.
J'avais déjà présenté d'autres concerts dans Aix,
oui,
dans d'autres endroits, et on avait vu conclure avec cet orchestre roumain. Malheureusement, il n'y avait personne qui parle français, personne chez nous n'avait pensé
à trouver un traducteur roumain,
qu'il faudrait bavarder avec eux. C'était un peu difficile, et ça avait attiré du monde. C'était sur la place de l'Hôtel de Ville, mais ça débordait dans les rues. Et il y avait des gens dans les arbres, grimpés dans les arbres, partout, partout, partout. Et si vous voulez, c'était un peu trop agité. Alors j'étais toute seule sur mon podium pour présenter ça. Ça allait bien parce que le chef d'orchestre avait compris. Il annonçait en roumain. Et je veux dire que ça n'avait d'ailleurs aucune importance. Les gens écoutaient la musique. Je fichais pas mal les titres. Bon. Puis c'était très vivant, très, très enlevé. Mais à un moment, il a fallu rendre l'antenne. Vers 11h30, je n'y arrivais pas. Il a fallu que ce soit Jean Deloron, qui était le directeur du son, qui vienne avec moi sur le podium. Et comme il était costaud et assez imposant, lui a réussi à se faire entendre. Mais moi, je ne pouvais pas.
Et les musiciens ne voulaient pas s'arrêter, quoi.
Ah, ils ne pouvaient pas s'arrêter. On ne s'est pas arrêté, d'ailleurs. Parce qu'on a rendu l'antenne, mais on a continué le concert jusqu'à 2h du matin.
Voilà, les plaisirs de la radio en déplacement. Et Salzbourg, Karajan ?
Ah, Salzbourg, Karajan, c'était quelque chose. Aïda, dirigée par Karajan, ça je dois dire que ça m'a ébloui. Karajan n'était pas très drôle, mais il était tellement précis dans le geste, précis dans tout. C'était vraiment, j'étais ébloui. Remarquez que des chefs d'orchestre, j'en ai connu d'excellents en France, parce que Laurie de Mazel, qui dirigeait l'orchestre
national de France, oui.
Alors lui, c'était le contraire. À peine un geste, à peine un doigt levé, et c'était aussi tout ce qu'on voulait. Formidable.
Vous avez connu aussi Martinon, sans doute, ici ?
J'ai cru Martinon, oui, moi. J'ai connu Laurie de Mazel, j'ai connu Ricardo Muti, à un moment, Georges Prêtre.
Bien sûr. J'ai vu que vous aviez par exemple même fait, alors dans un genre complètement différent, une interview de Stockhausen.
Oui, oh ben là j'ai eu du mal.
Bon, pourquoi ?
Oh mon Dieu, il était difficile. Mais enfin bon, ça l'a satisfait. Mais vous savez qu'il a demandé à ce qu'on lui envoie la bande en Allemagne pour qu'il la réécoute complètement et qu'il donne son aval.
En tout cas, voilà, vous avez fait la musique contemporaine, l'opéra et la musique légère. Donc, toutes ces dernières années que moi, j'ai connues en vous écoutant, c'était quand même cette émission régulière qui s'appelait Musique légère, hein, qui durait une demi-heure ou une heure. Ça a été d'abord le matin.
Ça variait comme horaire, ça variait aussi comme durée. Il y avait un service de musique légère ici spécial,
oui,
qui recrutait des compositeurs. et qui faisait vraiment faire des enregistrements toutes les semaines.
Hein. C'était la base de l'émission, c'était donc que des choses inédites, c'était pas des
c'était
disques. Hein.
Ah oui, non, non, c'était inédit. C'était quand même des compositeurs sérieux.
Oui.
Sérieux.
Alors on peut citer...
Ils étaient choisis sérieusement. Et
Gérard Calvi, André Pop, Roger Roger, j'imagine Valberg, tous ces
voilà.
gens-là.
Voilà. C'était des gens qui savaient composer.
D'où le charme de ces suites de musique légère. Dans la maison, également, un autre personnage était très important pour la musique légère, c'était Adolphe Sibert.
Alors, Adolphe Sibert, je l'ai connu comme compositeur, oui. Je l'ai connu aussi comme producteur. Et après, enfin, c'était amusant, j'ai beaucoup travaillé avec sa fille, Anna Sibert.
Anna Sibert, bien sûr.
Et on se partageait pour l'opérette. Moi, je présentais l'opérette classique française et elle, l'opérette autrichienne ou allemande. On avait un éventail qui vraiment était, apparemment, intéressait les auditeurs.
Voilà, parce qu'Adolphe Sibert était vraiment spécialisé dans la musique viennoise, on peut dire.
Ah oui, ça, il était formidable pour ça. Il savait tout. Il connaissait tout, il se souvenait de tout.
On va écouter en entier cette fois-ci le générique de votre émission de musique légère, cette Gavotina de Roger Roger. Non, vous n'écoutez pas l'émission de Sylvie Février, vous êtes bien sur France Musique cependant, avec Sylvie Février qui est mon invitée ce matin. Et on vient d'entendre cette Gavotina de Roger Roger qui a longtemps été votre générique, Sylvie Février.
Ça vieillit un peu, non ?
Ah, moi j'aime bien, je trouve ça très joli. Mais j'ai compris qu'au fond, vous aviez fait, comme tout ce que vous avez fait dans la maison, vous avez fait la musique légère avec curiosité, intérêt, sérieux. Oui. Mais ce n'était pas spécialement la musique que vous aviez choisie au départ. Ça a été une de vos nombreuses activités.
Oh mais non, mais tout ce que j'ai fait m'est tombé comme ça du ciel.
Voilà. Et puis alors est arrivé le jour... Je ne sais pas s'il faut le dire malheureusement, mais en 1994, où il a fallu quitter cette maison, c'était votre choix, c'était l'âge de la retraite, c'était...
Ah bah oui, j'avais largement l'âge de la retraite.
Ça n'a pas été dur de s'arrêter après tant d'années de radio
Si, je me suis beaucoup ennuyée après.
C'est vrai?
J'ai eu du mal à me retrouver, vraiment. La radio, quand on en fait comme ça pendant 35 ans, on vit avec.
C'est ça. J'en sais quelque chose, on prend ses habitudes, on se sent bien dans cette maison. On aime enregistrer, faire des interviews, rencontrer des personnalités comme vous aujourd'hui. Et puis un jour, ça s'arrête.
J'aime la nouveauté, j'aime apprendre.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Rencontrer des gens et apprendre. Et on apprend toute sa vie, vous savez.
Alors finalement, comment est-ce que vous avez occupé toutes ces années depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui?
Comme ça. Non, je n'ai pas fait grand-chose qui m'amuse.
Vous avez pris un peu de distance.
Oui.
Vous écoutez toujours beaucoup la radio?
Oui.
Oui.
Je regarde aussi la télé, mais enfin... Mais c'est vrai que j'écoute la radio. Ça me remet dans le...
dans le
dans l'ambiance, dans le bain.
Vous écoutez vos anciennes émissions? Vous en avez quelques archives?
Non.
Non.
Du tout.
Du tout. Bah alors, on était content de vous en faire entendre des petits bouts aujourd'hui.
Ah oui, ça m'a fait très plaisir.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici de Ville d'Avray. On va se quitter en retrouvant encore votre voix dans une présentation d'opérette cette fois-ci. Une petite opérette de Maurice Yvain qui nous permet de vous réentendre d'abord et puis on entendra un extrait de cette musique.
Eh bien moi je vous remercie chaleureusement parce que je me retrouve dans ces murs et c'est vraiment très émouvant.
En plus aujourd'hui on est dans un des studios qui n'ont pas tellement changé, qui datent presque de l'époque où vous étiez encore ici, même si la maison change beaucoup aujourd'hui comme vous avez pu le voir.
Oui, mais il faut aussi.
Il faut, c'est le mouvement de l'époque. Merci Sylvie Février.
Je vous en prie.
Bonjour. Autant vous mettre tout de suite dans l'ambiance, c'est une opérette rétro que je vous propose aujourd'hui. Et quand je dis « je vous propose », à la vérité, c'est le service lyrique de Radio France qui a décidé de ressusciter « Au papa » de Maurice Yvain, créé le 2 février 1933 aux Nouveautés à Paris.
Ma bouche sourit en prononçant le nom chéri.
Sa bouche sourit en prononçant le nom chéri.
Papa, 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 papa. Je vous présente mon papa. Mon cœur fait tigre et mon aigrigue. Car la famille, ça ne se remplace pas. Papa, 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 papa. Je veux trouver mon petit papa. Je suis sa fille.
Dans le métro, au Trocadéro, pendant deux années entières,
pendant deux années entières,
je l'ai cherché jusqu'aux frontières, même à la fourrière, je l'ai repéré au grain de beauté qu'elle m'a montré.
Il l'a repéré au grain de beauté qu'elle a montré.
Papa, 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 je vous présente son papa. Mon cœur fait tigre et mon œil pille, car la famille, ça ne se remplace pas. Papa, 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 papa. Elle a trouvé son petit papa. C'est bien ma fille, je suis son papa. C'est bien la fille, son papa.
Papa, 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 papa. Elle nous présente son papa. Son papa dit.
Que l'on ne voit qu'au ciné, ou comme on vous en raconte dans les cafés.
Tu vois café.
Tout ça est bien subtil, mais comment se fait-il? Vous soyez reconnu aujourd'hui seulement, quand vous vous rencontrez journellement. Faut-il encore répéter que c'est à cause du grain de beauté?
En tout cas, c'est bien curieux, expliquez-vous mieux.
S'il est dans un endroit imprévu, comment l'avez-vous vu? L'héritière de mon sang ne m'a montré rien d'indécent de ce que peut voir un papa. Le grain de beauté n'est pas en bas, 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 ni au milieu. Comme on le croit,
mais il était trop pour moi. Je suis petit, mais oui, ça m'interdit, pardi, de voir les femmes, tant pis, un peu plus haut que leur pomme d'api.
Comme un bébé,
petit,
petit,
sur la cabine,
sur la cabine,
petit,
petit,
ne permet pas, j'en ris, de faire le monde
s'afficher, chérie.
Ça me nuit,
ça oui,
mais ma fille, merci,
c'est inouï,
les grands dessus, je
suis petit. Petit.
Papa, une des meilleures opérettes de Maurice Yvain, malheureusement bien oubliée aujourd'hui, elle date de 1933. Et ça, c'était un enregistrement de la radio en 1977 sous la direction de Jean Doussard, présenté donc bien entendu par Sylvie Février, qui était aujourd'hui mon invitée. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cet entretien avec Sylvie Février, comme toutes nos émissions, en podcastant sur francemusique.fr.
Thank you.
Tosca d'une Java interprétée par l'excellent De Prince, Adolphe De Prince, un des rois de l'accordéon populaire venu du nord de la France et qui a réalisé de si nombreux enregistrements.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
D'ailleurs, vous le savez peut-être, sauf erreur de ma part, c'est justement De Prince qui joue de l'accordéon dans le film La Belle Équipe, lorsque Gabin chante Quand on se promène au bord de l'eau, avec donc cet accordéon juste pour l'accompagner, l'accordéon de De Prince. Parce qu'il faut le rappeler, je voulais m'arrêter quelques instants à cela aujourd'hui, le cinéma musical français est extrêmement abondant. On parle aujourd'hui de La La Land, des nouvelles comédies musicales américaines, un genre qui a un peu disparu chez nous, malgré quelques tentatives, comme celle d'Alain René, vous vous rappelez, pas sur la bouche. Malgré tout, on croit au fond que le cinéma français se réduit aux merveilleux films de Le Grand et Demi dans les années 60, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort. Mais en réalité, dans les années 30, le cinéma français a été pris d'une frénésie de musique. Tous les films comportaient des chansons, pas seulement les films musicaux à part entière, mais aussi les films ponctués par quelques refrains populaires entonnés par Arletty, Jacqueline Francel, Daniel Darieux, Pilsetta Béré, Ventura et ses collégiens, Simon Rému et peut-être avant tout celui qui a le plus chanté au cinéma, l'excellent Fernandel, ici dans Les 5 sous de Lavarède, une chanson de Casimir Oberfeld quasiment ou même complètement loufoque.
Quand on vit au pays des Indes, il faut savoir parler hindou. Et pour ne pas passer pour une dinde, on doit prendre la vie par bon bout. Par Brahma, par Brahma, oh quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, c'est comme ça à Calcutta. J'ai connu un vieux à barbiche qui voulait faire du cinéma. En tournant, il devint derviche. C'est comme ça que le derviche tourna. Par Brahma, par Brahma, oh quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, c'est comme ça à Calcutta. Dans le pays, il y a les intouchables, c'est les gens qui n'ont pas de pognon. Mais en France, il y a leurs semblables, ce sont des chèques sans provision. Par Brahma, par Brahma, oh, oh quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, mais oui, c'est comme ça à Calcutta. Le samedi, pour faire leur toilette, ils s'en vont au peuple sacré. Ils n'achètent pas de savonnette. Qu'est-ce que ça fait? Ils ont un bronzé. Par Brahma, par Brahma, oh oh, quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, mais oui, c'est comme ça à Calcutta. Les hindous n'ont pas de pipelette, pas de facteur, pas de calendrier. Ils se servent de serpents à sonnette et c'est eux qui montent le courrier. Par Brahma, par Brahma, oh oh oh, quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, oh, le croyez-vous, mais c'est comme ça, et à Calcutta, mais oui. Chez le Roumain, il y a le Voïvode, chez le Cubain, la Cucaracha. Il y a aussi la teinture d'iode, ben aux Indes, il y a le Maharaja. Par Brahma, par Brahma, oh, 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 quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, c'est comme ça à Calcutta.
C'est comme ça à Calcutta, tous les clichés sur l'Inde, mais en plus beaucoup de folie dans ce film joué par Fernandel en 1938, Les 5 sous de Lavarède, avec donc plusieurs chansons, comme dans tous les films de l'époque, et ça continuera encore un peu après la guerre. Je voudrais vous en faire écouter une autre chanson de cinéma, c'est la merveilleuse Suzy Delair dans Atolka, le dernier film de Laurel et Hardy, dans lequel elle joue le principal rôle féminin, Suzy Delair qui chante cette merveilleuse chanson de Paul Misraki, tu ne peux pas te figurer.
Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime. m'exprimer comme je peux t'aimer. C'est si doux dans tes bras, tu ne peux pas figurer. Quand ta main tendrement prend la mienne, quand tes lèvres me ferment les yeux, les chansons des amoureux diraient des mots merveilleux. Eh ben non, tu ne peux pas te figurer, c'est encore bien mieux. Ma chambre donne sur le square, et d'habitude il y a du bruit, mais tout est différent ce soir, et l'on n'entend plus que la nuit. Mets-toi bien contre mon épaule, c'est ton cœur qui bat près du mien, ce sont tes mains-là qui me frôlent. Oh mon amour, comme on est bien, tu ne peux pas te figurer comme je t'aime, c'est si beau d'être câliné. Ça ne peut pas s'exprimer comme je peux t'aimer. C'est si doux dans tes bras, tu ne peux pas te figurer. Quand ta main tendrement prend la mienne, quand tes lèvres me ferment les yeux, les chansons des amoureux diraient des mots merveilleux. Eh ben non, tu ne peux pas te figurer comme je peux t'aimer.
Merveilleuse chanson, merveilleuse orchestration, tu ne peux pas figurer. C'est Suzy Delair dans le film Atolka avec Laurel et Hardy en 1951. On la salue, on l'embrasse, Suzy Delair, qui a, bah, comme Daniel Darieux d'ailleurs, 99 ans. Et on les retrouvera toutes les deux dans un film que j'aurai la joie de vous présenter à l'Opéra Comique le 3 mai, justement deux jours après les 100 ans de Daniel Darieux, un film qui s'appelle Dédé, autre film musical de l'entre-deux-guerres où Darieux joue le rôle principal avec Albert Préjean, mais où l'on aperçoit aussi Suzy Delair, qui était son amie à l'époque, qui elle commençait juste sa carrière dans un des petits rôles. Voilà, ce sera le 3 mai à l'Opéra Comique, un hommage à Suzy Delair et Daniel Darieux, Dédé, l'opérette d'Henri Christinet.
Enfin messieurs, qui êtes-vous? Que désirez-vous?
Au nom de la Fédération, nous venons en délégation faire au patron l'exposition de toutes nos revendications. Nous n'admettons pas d'objection, nous exigeons sans restriction l'approbation et l'adoption de toutes nos propositions. Primo et sans retard, la journée d'une heure et quart. Deuxions au minimum, 100 francs par jour et par heure. Repos le samedi, congé le lundi et tous les après-midi. Au nom de la fédération, nous venons en délégation faire au patron l'exposition de toutes nos revendications. Nous n'admettons pas d'objection, nous exigeons sans restriction l'approbation et l'adoption de toutes nos propositions.
Le cœur des syndicalistes, un des grands moments de Dédé, l'opérette de Christinet et Villemetz, qui a donc elle aussi fait l'objet d'un film chanté à l'époque où l'on adaptait au cinéma les quantités d'opérettes à succès de l'époque. Et puis encore avant de retrouver notre chroniqueur Serge Laïc, je voudrais vous faire écouter une chanson, là je dirais plutôt une chanson de mes 15 ans. Vous savez, j'aime bien de temps en temps vous ressortir des morceaux de pop, de variété, de soul music qui sont porte aussi tout à fait dans l'esprit de cette émission. Aujourd'hui, j'ai choisi un morceau extrait de Led Zeppelin 4, un des albums les plus vendus de l'histoire de la pop musique. Mais ce n'est pas le morceau le plus connu, contrairement à Stairway to Heaven ou encore à Black Dog. Celui-là s'appelle Four Sticks. Et Four Sticks, c'est pour évoquer les quatre baguettes, puisque le batteur en avait deux dans chaque main pour enregistrer ce morceau extraordinaire de musique. Vous verrez l'alternance de 5 temps et de 6 temps dans la construction du morceau. Vous verrez les mélanges de synthétiseurs et de guitares rythmiques, acoustiques. Et puis, vous verrez aussi la voix étonnante, la voix d'enfant hurleur de Robert Plant. Tout cela donne une musique étrange, inventive, bien loin de ce qu'on appelle parfois le hard rock auquel on associe Led Zeppelin. Là, c'est vraiment une musique extraordinairement sophistiquée.
Oh, baby, I've got to fly.
L'alternance de 5-8 et 6-8, ça n'est quand même pas si fréquent dans le rock. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle Led Zepp n'a, je crois, joué qu'une seule fois cette chanson en public. Par contre, ils l'ont réenregistrée à Bombay avec un orchestre indien. Ils l'ont réenregistrée avec un orchestre arabe. Et on sent d'ailleurs cette influence de la musique arabe sur la façon de chanter de Robert Plant avec ses mélismes. Voilà un morceau, un petit chef-d'œuvre de la pop musique comme on la faisait en 1971. Maintenant, on va écouter de la musique légère comme on la faisait. Bah, je sais pas, c'est Serge Laïc qui va nous dire tout de suite. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Vous aimez les contrastes.
J'adore.
Alors après Led Zeppelin, on va remonter quoi? Dans les années 60?
Oui,
50,
c'est ça, à peu près, les années 50-60, absolument.
50-60,
oui.
La musique légère comme on la faisait à la radio, vous avez entendu, oui, Sylvie Février?
Absolument, superbe.
Voilà.
Superbe.
Vous l'écoutiez aussi?
Ben oui, je l'enregistrais. Non seulement je l'écoutais, mais je l'enregistrais.
Vous m'avez d'ailleurs donné un petit coup de main pour retrouver quelques archives. Merci Serge. Et donc aujourd'hui, on part avec vous sur les pistes.
D'abord sur les pistes et ensuite on va recevoir Michel Laurin. Voilà. Alors d'abord sur les pistes, pourquoi? Parce que je crois que vous étiez dans les Vosges, hein, en janvier dernier, au moment des grands froids. J'ai bien pensé à vous, bien évidemment, mais aussi au pianiste Dick Hyman, un pianiste de variété, de jazz américain, bientôt âgé de 90 ans, ce serait un candidat à votre émission.
Ouais.
Enfin, il habite aux États-Unis. Il s'est évertué, Dick Hyman, sur l'un de ses disques, à nous démontrer avec courant d'air, claquement de porte et claquement de dents, à la clé donc, qu'il ne fait pas si froid que ça en Alaska.
That door. It's cold up here in Alaska.
It's not so cold.
Hey, keep that door closed, will you? It's too cold up here in Alaska.
It's not so cold.
Hey, will you close that door? My teeth are chattering.
It's not so cold.
Well, it's too cold for me. I'm going to Hawaii.
It's not so cold.
Ah, c'est merveilleux, la cabane en Alaska, la porte qui s'ouvre, il fait pas si froid, dit l'autre. Et c'était donc Dick Hyman en janvier 1960, et musicien qu'on connaît pas dont on connaît pas forcément le nom, mais qui est le compositeur d'un célèbre tube, La Rose pourpre du Caire.
C'est lui qui a composé cette musique du film de Woody Allen et qui en a fait beaucoup pour Woody Allen aussi, après.
Voilà.
Après et avant d'ailleurs. Voilà, alors on va parler de Michel Laurin. Vous aviez reçu Michel Laurin en 2010. Michel Laurin, on le connaît, il a étudié piano, accordéon, avant de se diriger vers la percussion et il obtient un premier prix au Conservatoire de Paris, le Grand Conservatoire, à l'unanimité. Alors son talent multiforme lui permet de jouer avec les plus grands comme Jacques Brel, Montand, Aznavour, bien d'autres, mais aussi, et vous l'aviez rappelé dans votre émission il y a quelques années, aux côtés de Pierre Boulez notamment. Je vous propose d'écouter Le Voyage de Noces. Michel Laurin dévoile alors tout son talent de percussionniste, accompagné par un grand orchestre, celui de Jack Nilsson. Mais auparavant, Michel Laurin détaille en quelques mots les percussions utilisées pour cet enregistrement effectué en deux étapes.
Évidemment, on avait enregistré l'orchestre, et puis après j'ai installé tous mes accessoires sur une table, et en recording, j'ai enchaîné le criquet, le coucou, le vibraslap, le flexatone, le triangle, le klaxon, enfin bon, tous les petits accessoires que vous entendez dans le morceau. Thank you.
Voyage de noces, une marche comique de Fred Fried. Et c'est Jacques Nilsson, alias André Carrado, qui dirige l'orchestre avec donc les percussions de Michel Lorrain. C'était en 1966. Hommage à Pierre-Marcel Onder, notre regretté Pierre-Marcel, qui nous écoute de tout là-haut.
Et qui avait conçu,
ce disque percussion hors série parmi quantité d'autres.
Absolument. Alors Michel Lorrain, c'est le fils d'Étienne Lorrain. Étienne Lorrain, on le connaît très bien aussi, brillant accordéoniste qui avait aussi fondé l'Orchestre d'accordéon de Paris. Et surtout, il était le compositeur de la musique de chansons célèbre de Bourvil, La tactique du gendarme, C'est le piston, Les crayons. Bourvil, dont on célébrera en juillet prochain, et c'est d'ailleurs Michel Lorrain qui me le rappelait, le 100e anniversaire de la naissance.
Ah bon,
et
lui
oui,
aussi.
Et oui, entre
il
autres.
Est 17,
mais oui, entre autres, et entre autres à Ribérac en Dordogne, où Michel Lorrain réside depuis des années, et dont il est bien sûr le président de la société musicale, ça va de soi, eh bien Michel Lorrain organisera quelque chose avec l'orchestre du Cru. Il est bien avant d'écouter C'est le piston par Maurice André, parce que je voulais vous faire écouter une musique de Bourvil, mais c'est donc Maurice André à la trompette qui va le faire, qui va jouer. Michel Lorrain se souvient d'une émission de télévision qu'il avait associée un jour à Maurice André.
J'ai une anecdote avec Maurice André qui ne jouait pas cette fois-là le piston, mais si vous vous souvenez, le dimanche après-midi dans les émissions de Jacques Martin, d'abord c'était le thé dansant, après il y a eu le thé tango, et entre les deux, il y a eu une émission qui s'appelait le kiosque à musique, et un jour Maurice André était invité et il a joué le fameux air des clochettes de l'Acmé, et moi je lui répondais avec le glockenspiel, et j'avais un peu l'impression parce que ce que je faisais moi c'était vraiment beaucoup moins difficile que ce que jouait Maurice, et je me disais t'as pas le droit d'en mettre une à côté quand même, mais comme c'était solo et qu'on se répondait tous les deux, bah j'avais comme un peu la pression, voilà. Mais ça s'est très bien passé.
Maurice André et les Drilles en Trille, c'était en 1964, un disque dirigé par André Carrado.
Et encore un disque
de la chanson C'est le piston, bien sûr.
Bien sûr.
Serge Laïc,
et
pardon.
Et encore un disque conçu par PMO à l'époque.
Conçu par Pierre-Marcel Onder, notre...
Pierre-Marcel Onder. Alors
mais heureusement que vous êtes là pour...
Pour assurer
la présence de ce répertoire sur cette chaîne.
Mais oui, mais aujourd'hui, en fait, c'est un peu spécial parce que PMO est décédé il y a bientôt 4 années. Je voulais donc, c'était une raison aussi d'en parler, parce qu'il est décédé en mars 2013. Le légendaire chroniqueur, détonnez-moi Benoît, il y a déjà pendant plusieurs années, il faut
le
dire.
Je suis heureux qu'on ait fait toutes ces années ensemble après sa si longue carrière radiophonique.
Et alors, toujours avec Michel Laurin, finalement, on va continuer avec Michel Laurin, puisque Michel Laurin a enregistré une version tout à fait rarissime de PMO Polka, une musique composée par Roger Roger en l'honneur de Pierre Marcel Onder.
PMO, hein, c'était son petit nom.
Le sobriquet PMO. Et donc, PMO Polka a été joué magnifiquement au xylophone par Michel Laurin, avec un orchestre dirigé par André Lafosse et un organiste qui s'appelle Michel Ramos, alias Virginie Morgan. Donc, vous allez écouter PMO Polka avec tous ces artistes.
Michel Laurin, toujours aussi brillant là au xylophone.
Absolument.
Dans PMO Polka de Roger Roger, un enregistrement Barclay 45 tours de 1964.
Et encore une production PMO. Alors, on termine avec le retour à la neige. Il faut bien qu'on y retourne un peu. On y était au début, on y retourne maintenant avec Franck Pourcel qui interprète son fameux morceau Schuss qu'il avait composé avec son grand ami Raymond Lefèvre.
Thank you.
Et avec ce chous de Franck Pourcel s'achève cette chronique de Serge et Laïc. Merci pour cette balade musicale.
Serge. Merci beaucoup et à la prochaine fois.
À très bientôt. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comi, avec aujourd'hui à la technique Xavier Atto, entouré de Jean-Paul Lafa-Vergès, Elisabeth Gornescotto, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un amoureux de la chanson, de l'esprit français. Il vient de publier le dictionnaire amoureux d'Hergé. Je recevrai Albert Algou. Bon week-end à tous. Sur France Musique, bien entendu, où vous retrouvez maintenant Philippe Venturini.
Merci Benoît Dutertre, à très bientôt.